Ben bonsoir, merci d'être venu à cette table ronde autour de Philippe K. Dick. Pour m'accompagner ce soir, Hubert Prolongeau, qui est journaliste, romancier, scénariste de bande dessinée, et qui est le critique un peu spécialisé genre et science-fiction de Télérama.
Dans les limites que Télérama accorde à la science-fiction. Voilà. Mais c'est vrai.
Oui, mais maintenant Dick est
à Dick, reconnu. Ça va encore, ouais.
Donc un spécialiste de la littérature de genre et notamment de science-fiction, et qui connaît bien aussi Philippe K. Dick. À sa gauche, Étienne Barillet, professeur, auteur notamment d'un essai qui s'appelle « Le petit guide à trimballer » de Philippe K. Dick, qui est une espèce d'introduction un peu à l'homme et à l'œuvre. Étienne anime aussi un blog qui s'appelle un site internet qui s'appelle dickien.fr, qui recense un peu toute l'actualité autour de l'auteur et de son actualité. Étienne prépare aussi un autre livre qui fera suite à celui-là, mais on en parlera tout à l'heure. À sa gauche, Diane Le Serre, qui travaille pour les éditions Aquileos et qui vient de traduire un livre, voilà, de Scott Bucatman sur Blade Runner. D'ailleurs, tu pourras nous parler un petit peu aussi de la collection. Voilà. Mais avant d'arriver aux spécificités, j'ai d'abord envie de demander peut-être à Étienne de nous faire une petite remise à niveau, parce que je suis sûr que certains parmi vous connaissent très bien l'auteur, d'autres peut-être un peu moins. Donc de nous éclairer un peu sur qui était Dick et sur ce qu'était son œuvre. Voilà.
Bien.
Vous avez 2 heures.
Un an, 30 secondes. Donc Philippe K. Dick, 1928-1982, des centaines de nouvelles, des dizaines de romans. Certainement l'auteur américain de science-fiction le plus adapté au cinéma et à la télévision, et un auteur américain dont l'intégralité de l'œuvre de fiction a été traduite en français, que ce soit ses romans ainsi que ses nouvelles. Donc rien que cela le place quand même assez à part dans le champ littéraire. Vu que nous avons une relation en France avec lui assez intense depuis une quarantaine d'années, la seule chose de lui qui n'a pas été traduite, ce sont les 5 volumes de la correspondance. Mais à part ça, nous avons quasiment tout. Et maintenant, avec la publication du 2e volume de l'exégèse, nous sommes en passe d'avoir le corpus complet en français. Et accessoirement, c'est un écrivain de science-fiction.
Pourquoi accessoirement ?
Parce que Philippe K. Dick est également le premier écrivain de science-fiction publié dans la Library of America aux États-Unis, c'est-à-dire l'équivalent de la Pléiade. 3 volumes qui le place là aussi totalement à part par rapport à tous ces, par rapport à sa génération et aussi par rapport à tous les grands maîtres qui ont pu exister et qui ont peut-être été plus flamboyants que lui dans le style.
Et on peut signaler d'ailleurs, puisqu'on compare, que la Library of America est plus ouverte que la Pléiade, dans le cas, puisqu'elle s'est quand même ouverte aussi à certains maîtres du roman noir, Amet Yeh, James Cagney Yeh, Chandler, alors que notre Pléiade à nous ignore totalement la science-fiction et a mis 50 ans à publier 2 volumes de Simenon qu'ils ont renouvelés vu le succès. Mais
c'est peut-être voilà, aussi parce que le corpus est plus...
C'est une considération sans doute un peu différente de la littérature de genre qui est peut-être un peu plus respectée là-bas qu'elle ne l'est chez nous.
Avec quand même le fait que, comme le disait Étienne, Dick a été d'abord respecté en France avant par un boomerang avant d'être connu et étudié aux États-Unis. Enfin, les premiers travaux universitaires, Étienne a été parmi l'un des premiers à travailler sur lui à l'université, viennent de France.
Ouais, je ne sais pas si même si, peut-être je me trompe, la première biographie de Dick est celle d'Emmanuel Carrère ou celle de Sotine.
Non, Sotine.
Sotine l'avait fait. D'accord, mais Emmanuel Carrère, donc auteur aujourd'hui extrêmement et légitimement reconnu, voire adulé, est un fan de Dick de la première heure. Ça a été sa grande passion de lecteur adolescent. Et il a publié un livre qui s'appelle « Je suis vivant et vous êtes mort » sur Dick, qui est assez passionnant, moins fouillé que la biographie américaine de Richard Sutton, mais qui a une vraie vision du personnage et de son œuvre.
Oui, qui se rapproche plus, on va dire, d'un roman
que
d'une véritable biographie. Voilà, ouais, parce qu'il y a eu aussi un malentendu avec Dick à ce moment-là, c'est que beaucoup de gens ont lu le bouquin de Carrère comme une biographie, ce qu'il n'est pas du tout. Et ça a donné une image un peu de l'auteur assez fausse, à mon avis, mais ça, on pourra en reparler. Hubert, moi j'ai envie de vous demander comment vous avez-vous découvert, c'est une question un peu personnelle, comment vous avez découvert Dick, avec quel livre et peut-être quel roman vous ont vraiment le plus marqué de l'auteur?
Le premier, ça a été Ubik. C'était à une époque où, donc, étant né dans un milieu cultivé mais traditionnel, où Mauriac étaient les maîtres, ce que j'estime toujours qu'ils doivent être. Mais c'est vrai qu'il y avait un certain mépris pour tout ce qui était littérature de genre, et que donc l'une des la plus racontable de mes révoltes adolescentes a été de me plonger dans ces espèces de bas-fonds de la littérature qui était la série noire, qui était, et donc un ami, j'avais lu Bradbury comme tout le monde, puisque Bradbury a ce statut que Dick n'a atteint, mais j'ai l'impression moins d'être le seul auteur de SF que lisent les gens qui vous disent que la SF c'est nul. C'est-à-dire le seul qui soit suffisamment sorti du genre pour avoir droit à une légitimité, ce qui est un peu le cas aujourd'hui de Simenon par rapport au polar, mais le polar a gagné depuis 30 ans une légitimité que la SF n'a pas encore tout à fait gagnée hors du cercle de ses admirateurs. Et donc Bradbury avait ça, donc j'avais lu Bradbury, et puis j'ai découvert Dick avec Ubik, roman qui m'a à la fois fasciné sans que je comprenne absolument tout, et j'ai eu envie d'en lire d'autres. L'autre, celui qui a suivi, a été Le Maître du Haut-Château, donc qui était la première uchronie que je lisais. À l'époque, personne ne savait d'ailleurs ce que voulait dire le mot qui aujourd'hui, comme dystopie, c'est marrant, ces mots que personne, tout le monde ignore, et puis d'un coup connaissent une vogue, et tout le monde se met à l'utiliser à droite ou à gauche. Donc l'uchronie était quelque chose d'assez fascinant. Le Maître du Haut-Château la développe, en développe une classique qui a été développée ensuite par d'autres, qui est le destin inverse de la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire les nazis qui gagnent. Joe Walton s'en est servi, Len Dighton s'en est servi, enfin c'est devenu un peu un poncif du genre maintenant, mais Dick a été le premier. Et puis après, ça a été les nouvelles. Là, un peu en vrac, dans la collection bleue là, de chez De Noël, qui a publié Présence. L'intégrale. Et là, les romans de Dick sont des romans souvent écrits vite. Il a, je crois, plus des thèmes, enfin peut-être Étienne ne sera pas d'accord, plus des thèmes fascinants, une vision du monde plus qu'un style purement littéraire. L'écriture, parfois, est un peu simple, traîne un peu. Et ces défauts de composition, parfois de longueur, qu'il y a dans les romans, sont beaucoup moins marqués dans les nouvelles. Et dans les nouvelles, on a souvent des espèces de concentrés de l'univers de Dick et de ses fascinants paradoxes. Et c'est par elles que j'ai vraiment, vraiment accroché à lui.
On peut dire un truc sur les nouvelles et la SF en règle générale, c'est que la SF est, c'est un cliché de le dire, mais c'est en partie vrai, est quand même une littérature d'idées plus qu'une littérature de style souvent. Et le meilleur moyen de mettre en scène une idée forte est souvent une nouvelle où on a quelque chose de très court avec un impact très fort, et où des auteurs comme Dick, qui sont flamboyants, arrivent à développer des idées sans aller se noyer dans justement 50 idées. Le problème de certains romans de Dick, je ne sais pas si vous êtes d'accord, c'est que parfois il y a tellement d'idées qu'on se perd un peu, que tout est noyé, il n'arrive pas à maîtriser tout de bout en bout de temps en temps. Et donc avec ces nouvelles, on a vraiment la concision. C'est comme des épisodes de la quatrième dimension, on pourrait dire, où tout est très simple, très court, et où l'impact est... Ou Black Mirror, maintenant, voilà. Où l'impact est blâme. Vraiment, on se prend tout ça, tout d'un coup, en pleine tête.
Et il y a qu'en science-fiction, d'ailleurs, où il y a souvent des romans ou des choses présentées comme des romans, des livres comme des romans, qui sont en fait des assemblages de nouvelles. C'est-à-dire que les univers... Bradbury, les gens reviennent, Bradbury, typiquement. Les gens reviennent aussi dans des nouvelles à des univers qui ont été ceux de romans. Donc la frontière est beaucoup moins floue qu'entre le recueil de nouvelles, j'allais dire, de littérature blanche, qui, lui, est souvent un assemblage de textes qui n'ont d'autre rapport que le talent de l'auteur. Là, il y a des tentatives d'explorer les mêmes thématiques à travers divers courts textes, et c'est souvent assez passionnant. Effectivement, ça évite cette dilution qui affecte quelques-uns des romans de Dick.
On peut citer des romans dont peut-être que vous ignorez qu'ils sont des recueils de nouvelles, mais Les Chroniques martiennes, c'est un recueil de nouvelles. Demain les chiens de Simax, c'est un recueil de nouvelles. Fondation, c'est un recueil de nouvelles. Voilà, il y a pas mal de livres comme ça. Diane, je vais te poser la même question qu'à Hubert.
Désolée. Moi, j'ai découvert Dick adolescente. En fait, je lisais déjà beaucoup de science-fiction. En fait, c'est marrant, à la même époque, j'ai aussi découvert les adaptations cinématographiques. Je suis tombée, mais j'étais petite, du coup, sur Planète Hurlante. Et qui malgré peut-être, je ne sais pas, je ne l'ai pas revu, je n'ai pas fait de revisionnage. Oui, voilà, aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça donnerait, mais ça m'avait pas mal impacté quand même à l'époque. J'avais trouvé ça... en fait, j'avais senti ce twist que j'ai retrouvé dans les nouvelles, et après, j'ai dévoré quasiment l'intégrale des nouvelles. Et bizarrement, je n'avais pas forcément encore lu les romans. Donc je pense qu'après, c'est Substance Mort qui m'a pas mal marqué, moi, personnellement. Et je viens d'acheter Ubik parce que je crois que j'ai lu quelque chose que tu disais sur Ubik, comme quoi ça t'avait beaucoup marqué, celui-ci précisément, et en fait je ne l'avais pas lu, donc je vais me rattraper très bientôt, là je viens de me l'acheter. Ce qui est intéressant, c'est que donc moi du coup j'ai travaillé sur notre opus du British Film Institute sur Blade Runner, qui explique en fait que Philip K. Dick est décédé l'année où Blade Runner est sorti au cinéma en 1982. Je crois qu'il avait vu les premiers montages, si je me souviens bien, mais il n'a pas vu la version. Voilà, il n'a pas vu la version finalisée. Il avait commencé à travailler sur l'adaptation du roman, donc Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ou électroniques, je peux dire d'Adrien. Je l'ai acheté en anglais, donc je ne sais plus son nom. Avec, si je ne me trompe pas, c'est dans l'analyse de Scott Buchanan avec un collaborateur de Jean-Luc Godard. Pour essayer c'était sur Ubik, d'accord. Donc il avait déjà essayé de transformer ses scénarios. Ah oui, parce que sur Ubik, là, c'est expliqué dans l'analyse comment il a essayé de transformer son scénario. Et c'était un petit peu compliqué parce que il s'adaptait au genre cinématographique, mais c'était une première pour lui. Donc, ce qui est intéressant, c'est moi, en fait, je suis un peu arrivée aussi à Dick par le cinéma. Et tout ça, ça a un peu débarqué après Blade Runner. Comme le scénario a été acheté, finalement, ensuite, ça a ouvert la porte à ce qui est, enfin, les films comme Planète Hurlante ou Total Recall, et bien plus tard, Minority Report. Et donc maintenant, on a un Blade Runner qui vient de sortir. Et en fait, moi, j'ai toujours eu un peu le lien entre les deux, sachant que j'aime la science-fiction, j'en ai beaucoup lu, et en fait, je regardais déjà, même ado, là, vous avez Brasil, qui est un livre pour lequel je me suis battue dans notre collection, parce que c'est un de mes films préférés d'adolescente. Je ne sais pas si ce serait le cas pour des ados d'aujourd'hui, mais... Donc voilà, donc, moi, j'ai un rapport un peu mixte. J'aime beaucoup lire Dick, mais en fait, j'étais un peu arrivée par le cinéma.
Mais c'est intéressant, le cinéma, parce que, sans être un auteur maudit, Dick est un auteur dont la gloire posthume est largement supérieure à celle qu'il a connue de son vivant, et c'est le cinéma qui, en l'adaptant et en le dénaturant quand même assez souvent, parce que rares sont les films qui soient vraiment dickiens, et on est allé jusqu'à des superproductions qui n'avaient plus grand-chose à voir avec lui, a fait du nom de Dick une espèce de référence. Et il y a des films, je pense à L'Agence, je pense à... qui sont sortis avec le nom de Dick comme argument publicitaire supérieur à celui des acteurs ou des paycheck aussi, malgré la présence de Nicolas Cage, étaient des films qui étaient vendus sur le fait que c'était tiré... de nouvelles de Dick. Donc son nom, je ne sais pas si les gens qui y allaient sauraient parfaitement définir ce qu'il représentait, mais son nom a fini par représenter quelque chose, et il est mort avant cette éclosion.
Oui, hier j'ai discuté avec une prof de français à qui je dis demain je vais à une table ronde sur Philip K. Dick, elle lui dit non je ne connais pas, je lui dis si tu connais, c'est l'auteur de Blade Runner. Ah oui je connais, voilà. Donc ça, c'est radical. Signalons que tu as parlé du scénario d'Ubik, qui a lui aussi été publié aux États-Unis chez une toute petite maison d'édition et traduit en français chez Les Moutons Électriques. Et donc, il est toujours disponible. Et c'est assez fascinant de voir la différence entre le roman Ubik et ce qu'en a fait Dick quand il a adapté lui-même. Ubik est un roman dans lequel les personnages sont dans une espèce de monde qui régresse, c'est-à-dire que cette table-là va prendre la forme d'une table plus ancienne, que la voiture qui est dehors va devenir une voiture d'un modèle plus ancien, puis on va régresser comme ça jusqu'à des tractions avant, etc. Et dans le scénario de Ubik, Dick fait régresser le cinéma lui-même, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on va passer en noir et blanc, et puis les personnages ne vont plus pouvoir parler parce qu'on va passer au cinéma muet, et le film se terminait... Il n'avait pas fini comme ça, mais son idée, c'était de faire terminer le film sur la pellicule qui brûlait, parce que... Voilà. Donc, c'est pour vous donner une idée un peu des idées jusqu'où il était prêt à aller, ce qui est totalement anticommercial pour un film, je pense, mais bon. Et d'ailleurs, oui, je suis en train de finir... Enfin, j'ai fini, mais j'ai écrit une biographie de Philip K. Dick qui sortira en janvier, une biographie en bande dessinée. Et la scène d'ouverture est la scène un peu célèbre où Dick se rend dans le complexe où on finalise les effets spéciaux de Blade Runner juste avant sa mort, où il est invité, on vient le chercher en limousine, on lui sort le grand jeu, et où il voit 20 minutes d'un montage d'effets spéciaux sans la musique de Vangelis, sans aucun dialogue, et où il est soufflé par ce qu'il a vu et où il dit à Ridley Scott, c'est, vous êtes allé piquer les images dans mon esprit, comment vous avez fait ? Donc Étienne, qui je le rappelle, est l'auteur du Petit guide à trimballer de Philippe K. Dick, indispensable pour avoir voilà, toutes les infos pertinentes. Étienne vient de sortir le tome 2 de l'exégèse, traduit par Hélène Colomb. Donc y a, ça c'est que le deuxième tome, donc vous imaginez les deux. Aux États-Unis c'est sorti un volume, c'est une somme. Et tout n'y est pas, hein. Toute l'exégèse n'est pas là, c'est une sélection. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'exégèse ?
Oui, bien, alors là, ce qui est publié, donc la traduction française en deux volumes de ce travail universitaire américain, à la base, ce sont une collection de fragments de textes épars de Philippe K. Dick. Alors, si vous voulez, le manuscrit original, c'est ça.
Ouais, c'est des caisses.
Des caisses de feuilles de papier qui ne sont pas numérotées, qui ne sont pas classées, et que les amis de Philippe K. Dick ont un peu caché à sa mort pour que, en se disant, si les gens mettent la main dessus, on va penser que c'était un fou furieux.
Pour éviter aussi que des requins viennent. Voilà.
Oui, c'est ses enfants, je crois, surtout, qui se sont opposés à ça. Parce qu'avant, alors, il y avait deux de ses amis qui avaient tenté, dont son exécuteur testamentaire, Paul Williams, qui avait tenté de plonger dans la masse, mais qui, en des années, avait réussi à publier
une petite 300, sélection.
Voilà, 300 feuillets. Enfin,
donc là, ce qui est publié, justement, 9000, ouais. C'est une sélection d'après la collection qu'a fait Paul Williams.
Oui, ça a 91 classeurs.
Donc le... Oui, c'est ça, parce que Dick n'avait même pas classé.
Non, mais je ne crois pas que Dick avait jamais, enfin je ne sais pas, sauf si je me trompe, qu'il avait jamais songé à le publier. Lui, c'était des notes.
C'était une espèce de graphomanie pour lui, mais je pense qu'il devait se dire qu'après sa mort,
ça serait...
parce que il l'avait évoqué. Ouais,
Mais peut-être tu veux le raconter, ou d'un épisode...
Tu vas expliquer ça.
On va faire ça, les choses très très simplement. Philippe K. Dick a rencontré Dieu, qui lui a parlé, et jusqu'à la fin de ses jours, il s'est interrogé sans cesse pour savoir qu'est-ce qui m'est arrivé pendant ces jours de mars.
Donc, 74.
De 74. Donc pour lui, une rencontre authentique, hein, avec Dieu qui lui parle, des messages qui lui viennent, des visions. Donc là, il rejoint la cohorte qu'avait initiée Blaise Pascal, hein, des grands mystiques, des grands auteurs et des grands philosophes mystiques, et qui s'interroge et qui va pendant des nuits, et jusqu'à la fin de ses jours, travailler pour résoudre la question de qu'est-ce qui m'est arrivé ? Est-ce que je suis fou ? Est-ce que c'est un message envoyé par des services secrets communistes ? Est-ce que c'est un dieu qui viendrait de l'espace ? Est-ce que c'est Shiva ? Est-ce que c'est Jésus-Christ ? Et il va plonger dans différentes philosophies, dans différents textes, dans différentes cultures. Et il va trouver un jour une solution qui tiendra jusqu'au lendemain, puis une autre solution qui tiendra jusqu'au lendemain, et ainsi de suite. Donc l'exégèse, c'est une quête sans fin, et qu'il sent lui-même comme étant sans fin pour résoudre quelque chose qui est absolument insolvable, une authentique crise mystique.
Hubert, quelque chose à...
Oui, c'est une histoire, mais tu as dit l'essentiel, c'est une histoire assez incroyable. D'abord, cette crise, je crois, il rentrait de chez... Enfin, c'est un épisode très, très précis, Il rentrait de chez le dentiste, où on l'avait injecté du pain total. Et la pharmacienne doit venir lui apporter ses médicaments, donc elle sonne, il ouvre, et là, il la voit, et elle avait un médaillon avec des poissons, des premiers chrétiens. Et là, paf ! Illumination, et il tombe dans un espèce de voilà, son monde bascule. Alors il multiplie les crises d'hallucination. À un moment, il va même baptiser, il avait un fils, Christopher, qu'il baptise lui-même parce que vraiment il en sentait l'obligation, et qu'il appelle Ubique. Enfin, il reçoit, attendez, parce que là, j'ai une entité plasmatique rouge et or, comme il l'a décrit, c'est-à-dire qu'il le visite et qu'il baptise du nom d'Ubique, des fois, de Logos, et il rentre là-dedans, et effectivement, se lance dans une quête d'écriture qui amène à ça. Et ce qui est fascinant aussi, c'est la manière dont tout ceci nous est parvenu, parce qu'il en mettait partout, il écrivait surtout des papiers, des notes, et il y en avait sous son lit, il y en avait... Et c'est vraiment à sa mort, son exécuteur testamentaire qui a décidé d'essayer de classer ça, il l'a fait, donc ces fameux 91 classeurs, et puis il a abandonné, il y a un écrivain, Jay Kinney, qui s'est mis lui aussi à la tâche. Donc le fait qu'on l'ait aujourd'hui sur nos tables est vraiment... un acte de foi quasiment de gens qui croient en lui, qui voulaient que cette parole souvent délirante, peu structurée, mais par moments aussi assez éblouissante, puisse voir le jour. Et il a donc fallu, c'est pas un simple livre, quoi, c'est vraiment un travail éditorial colossal. Et alors je ne sais pas quelle est la proportion qu'on en a là, donc dans ces deux épais volumes, mais je crois qu'il n'y a guère que...
Ah non, là c'est vrai, c'est une ponction.
Voilà. C'est ça. Il n'y a guère que le web qui pourra un jour peut-être permettre, si tant est que ça soit souhaitable,
il y a un site
qui s'appelle l'intégrale soit publiée.
Il y a un site qui s'appelle Zebrapédia, qui maintenant est plus accessible. Il l'était avant, maintenant il faut s'inscrire, c'est plus compliqué. Ou des universitaires essaient de... collecter tout ce qu'ils peuvent, parce que il l'écrivait à la machine, mais il l'écrivait aussi à la main. Il y a des diagrammes, enfin bon, il y en a partout. Et donc ils essayent de retrouver tout ce qu'ils peuvent. Parfois ils essayent simplement d'arriver à lire ce qu'il avait écrit, parce que voilà.
Il y a d'ailleurs reproduit à la fin de ce volume quelques facsimilés du manuscrit original. Et c'est vrai que c'est quand même au-delà de l'intérêt qu'on y trouve, une entreprise éditoriale
oui,
incroyable et assez sans équivalent dans le monde d'aujourd'hui.
Ce qu'on peut dire sur l'exégèse, c'est que ce n'est pas un bouquin qu'on peut lire d'une traite du début à la fin, c'est impossible. Il faut aller picorer de ci, de là, et on peut avoir de la chance. Voilà, il faut peut-être lire le début du volume 1 qui, lui, remet justement en perspective les événements de mars-avril 1974, explique comment, via des lettres, en fait, on lit pas mal de lettres de Dick, où il explique lui-même à une amie ce qui lui est arrivé, son expérience mystique. Parmi les anecdotes les plus célèbres, on peut expliquer un jour, pendant cette espèce de crise mystique, qu'on pourra aussi essayer d'expliquer après en termes médicaux, un jour qu'il écoutait Lucy in the Sky with Diamonds avec son casque dans son salon, les Beatles se sont mis à lui parler. Et lui ont dit que son fils était atteint d'une hernie inguinale droite qui était descendue dans le scrotum et qu'il fallait qu'il aille tout de suite chez le médecin. Donc voilà, John Lennon ou Paul McCartney, je ne sais pas lequel, il a dit ça. Il est allé chez le médecin et son fils s'est fait opérer le lendemain parce qu'il avait eu le bon diagnostic et que voilà, et son fils risquait de mourir.
Et l'histoire est confirmée par la femme.
Voilà, oui, c'est elle qui l'a amené chez le médecin. Enfin bon, bah, une histoire un peu hallucinante qui participe aussi de cette espèce de mysticisme et de folie qui entoure Dick. Ce qu'on peut dire aussi sur le texte lui-même, c'est que c'est en même temps une entreprise rare parce que c'est une des rares fois, enfin moi, à ce que je sache, qu'un auteur analyse sa propre œuvre de façon aussi fouillée. Pour essayer de comprendre ce qui lui est arrivé, il relit ses œuvres et il se rend compte que tout était déjà dans son œuvre. Et donc, il va essayer d'expliquer qui est le Dieu qui lui a parlé, qu'est-ce qu'il a vu en allant relire Ubik, en allant relire Le Maître du Haut-Château. Voilà. Et donc, c'est une perpétuelle analyse de son œuvre. Et ça, c'est quand même assez fascinant de voir Dick réfléchir, voilà, parce que c'est vraiment au fil de la pluie, mais c'est vraiment, il déverse ce qu'il a dans le cerveau. C'est vraiment fascinant de voir Dick réfléchir, quoi, voilà, on peut dire que c'est une des personnes du XXe siècle qui avait un des cerveaux les plus bizarres, je pense, du siècle. Et de le voir comme ça travailler, c'est vraiment fascinant. Et rien que pour ça, c'est vraiment très intéressant.
Et c'est même une auto-analyse de ses propres visions qui est assez fascinante parce qu'il est selon les moments à la fois dedans et dehors. Donc il est là, il a ses visions, il essaie de les mettre à plat, de les comprendre et en même temps on voit Dick lui-même, c'est-à-dire l'homme, l'écrivain qui essaie de comprendre comment l'homme des visions les a eues et les a. Donc il y a une espèce de jeu de miroir souvent qui est très très étonnant.
Étienne, j'ai encore te demandé d'expliquer quelque chose. Est-ce que tu peux juste nous résumer les espèces de trois parties de sa carrière au niveau littéraire, avec les nouvelles, les grands romans, puis la partie, la trilogie divine ?
Philippe K. Dick n'a fait qu'un seul métier de toute sa vie, il a été écrivain, mis à part un job d'étudiant où il était disquaire. Donc il a choisi de vivre de sa plume et il a choisi le terrain fort peu lucratif d'être écrivain de genre, écrivain de science-fiction en Californie. Ça impliquait donc de publier des nouvelles, mais d'en publier beaucoup et d'en publier énormément, vu que chaque texte était en réalité payé par une misère par les éditeurs. Et la bascule de Dick de la nouvelle au roman, c'est juste quand Van Vogt lui conseille d'écrire des romans, parce qu'un roman est nettement plus payé qu'une nouvelle.
Il lui donne le secret pour écrire un roman. Il lui dit, c'est comme une nouvelle, sauf que quand tu es arrivé au bout d'une idée, tu vas jusqu'au bout d'une idée et tu en trouves une autre et tu continues avec les mêmes personnages et tu essaies d'épuiser plusieurs idées. Et c'est exactement ce que sont les premiers romans de Dick.
Donc la première phase, c'est donc Dick qui publie des nouvelles, qui écume les revues qui existaient alors aux États-Unis. Ensuite, il y a cette bascule dans le roman populaire, donc des livres de 4 sous, imprimés sur du très mauvais papier, avec de très vilaines couvertures. Hein, il s'est même retrouvé avec des couvertures qui ne correspondaient pas au texte qui était publié, mais c'était une couverture que l'éditeur avait sous le coude, donc ils l'ont utilisée, et qui petit à petit se fait un nom. Et c'est ce premier Dick-là qui va apparaître en France. Donc c'est celui qui va publier à partir des années 50-60. Et ce sont les premières traductions que l'on va voir arriver. Et le dernier Dick, c'est le Dick des années 70, je serais tenté de dire. C'est le Dick qui est à la fois le plus mystique, le plus bizarre, mais aussi le plus apaisé. Parce que ce n'est qu'à la fin de sa vie, et encore une fois, et on revient à Hollywood, ce n'est qu'à la fin de sa vie, avec les droits des options prises sur ses livres, c'est-à-dire le studio qui paye pour avoir le droit de faire une adaptation éventuelle du film, qu'il acquiert une aisance financière qui devient manifeste quand les droits de Blade Runner sont vendus. Mais Philippe K. Dick, c'est aussi l'auteur qui a refusé d'écrire Blade Runner. Hein, vous le savez, quand les producteurs, enfin eux, ils s'attendaient à voir le film qui allait faire casser la baraque pour les 10 années à venir, avait dit à Philippe K. Dick, vous allez écrire la novélisation du roman à condition que est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques disparaissent et soient remplacés par Blade Runner, novélisation du film. Et ils lui ont proposé un énorme chèque à 5-0 et il a refusé. Il a refusé parce qu'il estimait que son livre existait, qu'il n'y avait strictement aucune raison que son texte disparaisse. Mais cela explique que Est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques n'existe quasiment plus en édition et qu'il est constamment vendu sous le titre Blade Runner, et ce qui amène quantité d'amateurs du film à être particulièrement étonnés quand ils lisent le livre et qu'ils n'en retrouvent pas grand-chose à l'écran.
Alors justement, Diane, toi qui as traduit le livre de Bukatman sur Blade Runner, est-ce qu'il parle du roman aussi? Et plus largement, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'a changé vraiment le film?
Oula, oui. Quand on lit le roman, on voit très vite la différence. Justement, en fait, quand on lui a proposé la novélisation, donc au départ, sur cette analyse de Bukatman, il explique justement les relations avec le cinéma donc de Dick, comment les droits ont été optionnés. Et donc, on lui a proposé cette novélisation qu'il a refusée et que, par contre, il a fait rééditer à ce moment-là, justement, son roman. Donc, un peu un pied de nez à cette histoire d'essayer de faire passer le film pour le livre et vice-versa. Donc au final, voilà, il a plutôt préféré faire rééditer son roman pour le faire vivre tel quel. Le lien entre les deux, alors Dick a quand même eu accès aux scénarios qui ont été développés au fil du temps, à savoir qu'il y a plusieurs scénaristes qui ont travaillé sur Blade Runner. Il y avait Fincher qui était un ancien acteur qui se reconvertissait dans l'écriture. Ensuite, il y a David Peoples qui était un monteur qui se reconvertissait aussi dans l'écriture de scénarios. Il a fait quelques petites critiques plus ou moins acides sur les différentes versions du scénario. À savoir que donc, c'est finalement une bonne chose qu'il ait apprécié les premières 20 minutes de montage. Et peut-être que c'est la vision de Ridley Scott qui a créé le lien, je ne sais pas. Mais il n'appréciait pas forcément la façon dont le côté un peu... film noir était utilisé, alors je ne sais plus, il a une expression qui est pas mal, je vais vous la retrouver rapidement. Le temps que je la retrouve, ah si, je l'ai là je crois. comment est-ce qu'il avait appelé ça ? Pour le premier scénario, celui de Fancher, il se plaignait du côté vieux cliché de personnages chandelleresques. Placé au cœur de l'histoire, il appelait les premières versions Philippe Marlowe chez les femmes de Stepford. Je pense que vous connaissez peut-être les femmes de Stepford, qui a aussi eu des adaptations cinématographiques, plusieurs même. Et donc, en fait, Buchetman nous explique cette genèse pour essayer de faire comprendre comment Ridley Scott s'est emparé de cette histoire et en a fait quelque chose de complètement différent. Alors, complètement différent et pas complètement différent. Alors ça dépendra des analyses, vous donnerez vos avis. Mais j'ai l'impression, moi, en ayant lu le roman et vu le film, qu'il a effectivement pris des choses. Mais si vous avez été lecteur, forcément, avant, la richesse qu'il y a dans le roman, de toute façon, je pense, n'aurait peut-être pas pu être adaptée de manière pertinente, c'est compliqué. Alors, vous voyez, on a aussi fait Shining dans les analyses de films, et ça commence de la même manière. La personne qui a analysé le film explique combien l'adaptation cinématographique a pu être perçue comme une trahison et pas comme un bon film de Stanley Kubrick, tout en étant peut-être une mauvaise adaptation du livre de King. Et bien, peut-être que Blade Runner est un bon film de Ridley Scott, et ça dépendra du lecteur.
Ridley Scott n'avait jamais lu Philip K. Dick et il n'avait pas lu le roman. Donc lui, le roman ne l'intéressait pas.
En fait, à la base, Scott était censé être occupé sur Dune, qui a ensuite été repris. Il avait des soucis personnels, tant que ça s'expliquait en début d'analyse du film. Et à un moment donné, il s'est retrouvé un peu... il avait besoin de travailler et de s'approprier quelque chose. Et il s'est approprié en fait ce scénario qu'on lui avait déjà proposé et qu'il avait refusé au départ. Donc, il a mis sûrement beaucoup de choses personnelles, mais ce n'était pas effectivement un fan de Dick. Il l'a travaillé à sa sauce. Il y a eu, donc, je pense que vous le savez, 3 montages différents de Blade Runner, selon la version que vous avez vue en premier. Voilà, c'est plus ou moins particulier. La différence, c'est qu'il n'y a pas, par exemple, donc dans le roman, vous avez toute une partie mystique sur une religion, mercerisme, qui n'est absolument pas évoquée dans le film, par exemple. Il y a des choses qu'on retrouve avec des touches un peu plus subtiles dans le film qui sont dans le roman, à savoir, moi, ce qui m'a le plus étonné quand j'ai lu le roman, parce que je l'ai lu après, du coup, après avoir vu Blade Runner, il y a cette histoire, en fait, avec les animaux, vous l'avez lu, qui est extrêmement prégnante tout au fil du récit, en fait. Donc, dans l'univers de Blade Runner ou des androïdes, il n'y a quasiment plus d'animaux sur Terre. Mais la place que cette problématique prend et tout le lien qui est fait avec les notions d'empathie dans le roman sont à peine évoquées, finalement. À peine évoquées. Alors, il y a la symbolique de la chouette dans le film. Il y a quand même des évocations des animaux synthétiques, mais finalement, c'est comme s'il y avait des petites touches, mais qu'il avait gardé à chaque fois le mystère sur les thématiques, au lieu de les développer comme dans le livre. C'est l'impression un peu que ça me donne. Après, il y a des différences qui sont... des différences, par exemple, du traitement du personnage féminin, qui est assez intéressant. Mais il y a les thématiques du souvenir qui sont quand même tout ce qui est la mémoire, l'identité, ce qu'on retrouve toujours chez Dick, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas, et le questionnement du personnage principal par rapport aux androïdes, sa propre empathie, sa propre place, qui se retrouve quand même dans le film. Donc j'ai quand même l'impression que le lien entre les deux sont les thématiques. Après, il n'a pas tout utilisé.
Le film a d'ailleurs un statut assez particulier, parce que c'est une œuvre qui est devenue très très vite un classique, aujourd'hui que tout le monde connaît, qui a fait beaucoup pour connaître le nom de Dick, et qui en fait est un succès commercial très très moyen quand il est sorti. Donc son influence et l'impact qu'il a eu sont largement supérieurs au public qu'il a rencontré lors de sa sortie.
Bah, ça a été un bide.
Oui, pas à ce point.
Ah non, si, un four.
Je vois ça plutôt comme un moyen, quelque chose qui
vraiment, ça a été un four financier, grave.
Ils ont perdu de l'argent.
Il est sorti l'été 82. L'été 82, vous avez donc deux bides qui sont devenus des classiques, Blade Runner et The Thing de John Carpenter.
Oui.
Mais vous avez E.T. de Spielberg. Donc, que voulaient voir les gens en 82, ce n'était pas un futur dystopique. Ils voulaient voir un gentil extraterrestre et un enfant. C'est le film qui sort exactement au mauvais moment, mais qui existe au bon moment parce qu'il y a l'essor de la VHS qui arrive juste après. Et c'est la VHS qui va permettre à Blade Runner d'être redécouvert et de devenir, au sens premier du terme, culte.
Ouais, assez vite.
En fait, la Warner a senti le beat de suite. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont de suite débloqué la possibilité de le passer sur leur chaîne et de développer la diffusion en VHS. Donc c'est devenu culte grâce à ça, parce que ça a fait un four, en fait. Et ça, je crois qu'ils ont fait, 14 millions. En gros, ils ont fait la moitié de leur budget de production en bénéfice, donc c'était vraiment un four. Mais Ridley Scott a mis énormément d'argent, en fait, dans la production, on va dire, tout ce qui est décor et design, et donc la Warner essayait de freiner. Lui, il ne voulait pas freiner. Et voilà, c'est comme ça qu'ils ont fait un très très gros four. Aussi parce que le succès donc public n'est venu qu'avec le côté culte des revisionnages des gens qui l'ont découvert en VHS et sur d'autres circuits. Et en fait, le succès critique n'était pas vraiment là non plus, puisque beaucoup de critiques sont complètement passées à côté. On trouvait ça froid, on trouvait ça étrange.
On se souvient de la couverture de Metal Hurlant. Qui met à la une, c'est Philippe K. Dick qu'on assassine.
Alors, oui. Ils l'ont fait. C'est Manœuvre qui signe ça. Ouais. Mais. Et je comprends qu'il l'assume parce qu'en fait.
Il a plein de choses.
Blade Runner, le succès est en partie dû aussi à Metal Hurlant parce que toute l'esthétique. Ah oui. De Scott dans Blade Runner, c'est The Long Tomorrow de Moebius, quoi. Donc, c'est Druyer, c'est Moebius, c'est Mézières aussi. Enfin, c'est l'école Metal Hurlant de SF. Donc, en gros, c'est les Français qui faisaient des petits Mickey dans Metal Hurlant qui ont influencé Scott et donc Hollywood et qui ont influencé tout le Hollywood des années 80-90. Donc c'est vraiment ce mix entre Dick et Metal Hurlant. Et je comprends que les mecs de Metal Hurlant l'avaient peut-être un peu amer de s'être vraiment fait piquer leur âme, quoi. En gros, c'était ça, quoi. Donc, ouais, je comprends que Manœuvre ait pu dire ça, quoi. Est-ce que l'un d'entre vous a vu la suite ?
Oui. Demain soir.
Alors, Hubert.
Pas de spoiler, j'y vais demain soir.
Non, mais il n'y a pas grand-chose. Si, enfin, il y a quelques révélations à la fin, mais ce n'est pas l'essentiel. Non, moi, je trouve que déjà, je ne sais pas quel est son... Parce que c'est sorti mercredi aux États-Unis aussi.
C'est un four aussi.
Voilà, quels sont les points de chiffre. Mais c'est un pari stupéfiant de mettre autant d'argent dans un produit qu'on présente comme quelque chose d'aussi marketé à l'heure des blockbusters et de donner un film qui est ce qu'avait fait Soderbergh, mais en moins réussi avec Solaris aussi un peu. Donner un film qui est un film extrêmement lent, extrêmement visuel, très contemplatif et dont la signification, sans être complètement ésotérique, n'est pas forcément évidente. Donc déjà, à ce niveau-là, c'est un pari extrêmement audacieux. Après, moi, c'est un film que je trouve magnifique. Je trouve que Denis Villeneuve avait déjà réussi l'an dernier avec Premier Contact, un des plus beaux films de SF de ces dernières années, et que là, il creuse le trait. On a comparé le film, d'ailleurs, plus à Stalker qu'à... un space opéra, c'est un peu un hommage un peu excessif, mais c'est un film qui effectivement, je pense, est d'une audace et d'une splendeur visuelle extrême. Les thématiques qu'il développe sont un peu les mêmes que celles du roman et du film, donc j'allais dire des sujets passionnants, mais un peu tarte à la crème dans la SF. Donc, qu'est-ce que l'humanité, le robot qui s'humanise, le où sommes-nous, mais qui pose ces questions vraiment à travers une esthétique somptueuse et en prenant vraiment le temps de la réflexion. On se rend pas compte, en fait, à quel point ça fait du bien de temps en temps de voir un film, surtout à ces hauteurs budgétaires, dans lesquels il y a des plans qui durent plus de 30 secondes. C'est l'anti-pas Ridley, mais Tony Scott, le frère de Ridley, qui à mon avis est un des pires cinéastes qui ait jamais existé, était incapable de faire un plan de plus de 3 secondes. Donc c'est des films qui n'étaient jamais ni pensés, ni découpés, ni construits, c'est des films qui étaient montés essentiellement. Blade Runner joue le pari inverse et je trouve le réussi plutôt bien.
C'est intéressant parce que la dernière fois que j'ai revu Blade Runner avec la super version remasterisée qui est magnifique, la réflexion que je m'étais faite avant de voir 2049, c'était vraiment, il s'arrête et ses plans durent, ils sont magnifiques et les décors étaient en grande partie faits à la main ou étaient des matte painting à l'époque. Et c'est vraiment une richesse. Moi, je me suis dit, par rapport au film que je supporte plus au cinéma maintenant, effectivement, parce que les blockbusters sont montés à la serpe et que c'est un peu épileptique, c'était super agréable de retrouver ce genre de film. Du coup, je pense que Denis Villeneuve est un super choix, en fait, pour reprendre le flambeau sur Blade Runner. Alors, je ne l'ai pas autant apprécié que toi, mais j'y vois ces qualités-là, en fait, de toute façon. Après, il y a une froideur chez Villeneuve qui fait que j'avais adoré, en plus, Premier Contact, et je vois les liens dans son cinéma. Mais en fait, je me dis, il faudra que je le revoie parce que les critiques disaient à l'époque de Blade Runner qu'ils y voyaient une trop grande froideur que moi j'ai vue peut-être dans la suite et qui au final, que je trouve pas pertinent comme analyse sur Blade Runner maintenant que je l'ai revu. Donc en fait, je pense qu'il y a des thématiques que je verrai peut-être en le revoyant et en me détachant aussi de l'original. Mais il y a toutes les thématiques de Dick qui reviennent et je pense que voilà, c'est à voir, mais plus difficile à analyser.
Moi, je tiens à préciser que je me désolidarise complètement de ce qu'a dit Hubert sur Tony Scott, que j'adore.
Ah oui, on fera la semaine prochaine, on viendra discuter de Tony
Scott. Revenez pour le débat sur Tony Scott. Voilà, merci beaucoup d'être venu. Et merci aux intervenants, merci beaucoup.